Il était à peu près 10 heures du matin. Tout à coup, j'ai vu arriver au centre de la ville un immense cortège. C'était mardi, jour de marché. Il y avait beaucoup de monde, et même des paysans qui défilaient avec leurs vaches. À la tête du cortège, il y avait des scouts et des camarades du collège qui m'ont fait signe. Et je les ai rejoints sans savoir ce que je faisais. Immédiatement, ce fut la fusillade, suivie d'une cohue extraordinaire. La foule refluant et cherchant le salut dans la fuite. Une petite fille fut écrasée dans la panique. Ne sachant où aller, je suis entré chez un libraire. Je l'ai trouvé gisant dans une mare de sang. Un ami de mon père, qui passait par là, me fit entrer dans un hôtel plein d'officiers qui déversaient des flots de propos racistes. Il y avait là mon professeur de dessin, une vieille demoiselle assez gentille, mais comme je chahutais dans sa classe, ayant parlé une fois de faire la révolution comme les Français en 1789, elle me cria « Eh bien, Kateb, la voilà votre révolution, alors, vous êtes content ?» J'ai filé sans répondre. Il y avait pourtant des soldats en position de tir. Plus question de retourner au collège. Mon père était gravement malade. J'ai décidé de le rejoindre dans le village de Bougda, à 45 kilomètres de Sétif. Les gens arrivaient de partout. Les rumeurs les plus folles couraient. Certains disaient que les Turcs avaient débarqué à Bougie, d'autres qu'on avait pris Alger. Jamais je n'avais vu tant de monde. À l'arrivée du car se trouvaient mes amis de l'école française. « Ça y est, leur ai-je dit, le peuple s'est soulevé. » Je ne savais même plus à qui je parlais. Dans la nuit, on a entendu des coups de feu. La folle du village a été tuée près de l'église et dès le lendemain, on a vu arriver les tirailleurs sénégalais. Le 13 mai, au matin, j'ai été arrêté par des inspecteurs qui m'ont conduit à la prison de la gendarmerie. Et là, j'ai commencé à comprendre les gens qui étaient avec moi, les gens du peuple. Autour de la prison, on entendait les coups de feu. Les exécutions sommaires avaient lieu en plein jour. Devant la mort, on se comprend. On se parle plus et mieux. Quelques jours après, nous avons été transférés à la prison de Sétif. Puis au camp de concentration, un immense terrain vague entouré de barbelés où je suis resté plusieurs mois. À ma libération, j'ai traversé une période d'abattement. J'étais exclu du collège, mon père agonisait et ma mère perdait la raison. Je restais enfermé dans une chambre, les fenêtres closes, plongées dans Baudelaire. Puis, mon père m'a persuadé, pour changer d'air, d'aller à Annaba, où nous avions des parents. Là, ce fut le deuxième choc, l'amour. J'ai rencontré Nejma. J'ai vécu près de 8 mois avec elle. C'était le bonheur absolu. Mais en même temps, j'étais fasciné par les militants, les gens que j'avais connus en prison et que je retrouvais immanquablement. Il y a eu en moi un déchirement entre Nejma et mes camarades. Et puis, elle était déjà mariée, j'étais trop jeune pour elle, je savais bien qu'il fallait rompre, mais c'était difficile. En ce temps-là, j'ai commencé à boire. Un matin, après une nuit blanche, j'ai fait l'ouverture d'un bar. Un colosse blond, coiffé d'un chapeau, m'a rejoint au comptoir. Comme nous étions les deux seuls clients, nous avons engagé la conversation. Il m'a demandé ce que je faisais. Je suis étudiant, mais je n'ai pas envie de continuer. Je voudrais écrire. Ah, bah ça tombe bien, moi je suis imprimeur. Apporte-moi tes poèmes. Cet homme extraordinaire, mon premier éditeur s'appelait Karl Avant. Il était en faillite après avoir dirigé l'imprimerie du Réveil Baunois, journal du soir à Annaba. Comme il lui restait un stock de papier, il a décidé de finir en beauté en publiant un jeune poète inconnu. C'est ainsi qu'il a imprimé Soliloque, en 1000 exemplaires, qu'il m'a remis sans rien me demander en échange. Ses poèmes de jeunesse datent de presque un demi-siècle. On y retrouve 2 thèmes majeurs, l'amour et la révolution, dans une première ébauche de l'œuvre qui allait suivre. En un mot, Soliloque, ce n'est pas encore Nejma, mais c'est son acte de naissance. Kateb Yassine, mars 1988.
Sur le théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Aujourd'hui, nous allons parler de Kateb Yacine. Vous en avez entendu un extrait, l'introduction de ses poèmes qui s'appellent Soliloques, qui ont été lus par Néjon. Bonjour Néjon.
Bonjour, bonjour.
Et avec nous dans le studio, il y a aussi Odile Loria.
Bonjour.
Et Alma Rosa Bernal.
Bonjour.
Et Amandine Vincent à la technique avec moi.
Bonjour.
Donc merci à tous d'être venus pour cette émission spéciale sur Kateb Yacine, un auteur qu'on a souhaité mettre en avant cette saison à la Gamelle, dans le cycle de lecture sur plusieurs des auteurs qu'on voulait mettre en avant. Mais c'est vrai que Kateb Yacine, Néjon, on n'en parle plus du tout en fait aujourd'hui, ou très peu. Malheureusement.
Non, on n'en parle plus. Enfin, c'est un peu une traversée du désert, comme on dit. On n'en parle plus en France et on n'en parle plus, je pense, en Algérie. Pourquoi ? Il faut se poser la question. C'est politique, c'est question de censure. En fait, si on veut parler de Kateb Yacine, ce qu'il faut, c'est penser à son œuvre et penser à ce qu'il aurait dit aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Algérie et dans beaucoup de pays. Et c'est là la question.
Parce que Kateb Yacine, c'est vrai qu'on peut dire, déjà pour resituer pour nos auditeurs, il est né en 1929 dans la wilaya de Constantine, et puis il est mort en 89 à Grenoble. Il est d'origine Chaoui, c'est une des tribus berbères kabyles. Et c'est vrai que son œuvre, sa vie, elle se confond complètement. On l'a bien compris en fait quand on entend ses propres mots dans l'introduction. Tout est mêlé en fait dans son œuvre.
Oui, c'est pour ça que c'est difficile de parler de Kateb Yacine. C'est difficile parce que en fait son œuvre, ça explose dans le temps. En fait, c'est pas un temps chronologique. Et sa vie à lui aussi est comme son œuvre, c'est-à-dire c'est des allers-retours, c'est des 10 ans d'exclusion en France. Et c'est une recherche. Et aussi, il faut dire aussi que bon, en fait, faut quand même apprendre un peu les choses par leur début. À 16 ans, il écrit ses premiers poèmes. Il est édité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis après, il va partir en France et ça va être quand même de la galère. Il va connaître là, il va prendre contact en fait avec des gens du peuple, en fait plus qu'encore qu'en Algérie quoi. Il va rencontrer des Algériens, mais des Kabyles, des Berbères, et ça va être un peu la misère quoi. Mais en même temps, il continue à écrire. Il se débrouille et en 1956, en fait, il va en pleine guerre d'Algérie, hein, puisque ça a commencé en 54. En 56, il écrit Nejma, qui va être comme un pavé dans la mare, vraiment, parce que c'est explosif comme bouquin, et parce que aussi c'est la guerre d'Algérie, et donc ça va être une reconnaissance pour lui, quoi. Et là, de là, il va commencer à, il va revenir après en Algérie, mais bon, Faut peut-être parler d'autres choses avant.
En France, ça doit être une reconnaissance dans certains milieux. J'imagine dans le milieu des militants qui du coup, peut-être ces porteurs de valises qui militent pour l'Algérie libre. Parce
oui,
que
oui.
Je ne sais pas si beaucoup d'intellectuels connaissaient Kateb Yassine en 1956 en France.
Avant la sortie de Nejma, non. Non. À part peut-être un ou deux hommes de théâtre, parce que Kateb Yassine était intéressé par le théâtre, donc il a essayé de les contacter, comme ça, comme Jean-Marie Serrault, par exemple, qui était un grand découvreur de textes. Et donc, mais sans ça, personne ne le connaissait. Mais c'est à partir de Nejma, quand Nejma a été édité, alors là, bien sûr, d'un seul coup, ça a été une reconnaissance. Et il est devenu, en fait, d'un seul coup, très vite, le chef de file, en fait, des écrivains algériens de langue française. C'est un peu drôle de dire ça, mais enfin... c'est comme ça, parce que, les Algériens, pour écrire, ils avaient quand même la langue française, quoi. C'est le gros problème avec pour Kateb Yassine, c'est un de ses combats. Ça a été de combattre pour la langue algérienne qui n'existe pas du point de vue de Kateb Yassine, parce qu'il dit la langue algérienne c'est la langue coranique, c'est-à-dire c'est la langue de l'élite soi-disant. Et il dit lui la vraie langue qui pour nous c'est le tamazir. Voilà, la langue des Kabyles, des Berbères.
Des Amazirs, oui, voilà, tout à fait, voilà. Qui pendant des années a été interdite en Algérie et qui très récemment commence à être enseignée, depuis 2001 je crois, est enseignée en Kabylie dans les écoles, mais c'était interdit de parler tamazir.
Ah bah complètement, oui. Et puis il y a eu des combats, il y a eu vraiment... on peut même pas faire une conférence sur la poésie berbère, enfin, je sais pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut la faire en Kabylie, mais en Algérie, ça m'étonnerait. Voilà, ça a été un de ces grands combats, en fait, la langue. Et en fait, oui... il a appris le français, en fait, c'est son père, qui à un moment donné lui a dit arrête avec l'arabe, apprends le français, va chez eux et parle le français mieux qu'eux. Et comme ça, tu pourras te défendre et attaquer. Après, tu reviendras ici, puis tu apprendras l'arabe. Si ça existe, voilà. Et donc, va dans la gueule du loup. C'est un peu le terme qu'il a employé, le père de Kateb Yassine. Jette-toi dans la gueule du loup. C'était le français. Et donc, Yassine disait, Kateb, j'apprends le français pour dire aux Français que je ne suis pas français. En gros, c'était le truc.
Il y a aussi, par rapport du coup à l'arabisation forcée après l'indépendance, à partir de 1965, je crois que justement, le tamazir est interdit, la langue française n'est plus vraiment la bienvenue. Et lui, il a écrit par rapport à ça. Il me semble que tu as un extrait à nous lire de ses propres paroles là-dessus.
Oui, j'ai des extraits du montage que j'avais fait. On parlera un peu. Donc, il disait, lui, on parle de l'arabe, on parle du français, mais on oublie l'essentiel, ce qu'on appelle le berbère. Terme faux, venimeux même, qui vient du mot barbare. Pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom? Ne pas parler du tamazir, la langue, et d'amazir, ce mot qui représente à la fois le panthère, le pays et l'homme libre. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens en Algérie parlent cette langue. Or, on nous les présente comme une minorité. Et beaucoup d'Algériens se croient arabes parce qu'ils tombent dans la mythologie arabo-islamique. La véritable identité est crainte. Elle pourrait tout changer en Afrique du Nord. Et supposez par exemple qu'à la radio, on s'adresse aux paysans du Rif en tamazir. Mais ça changerait absolument tout. En fait, je n'ai jamais cru que l'indépendance serait la fin des difficultés. Je savais bien que ce serait très dur. Il était déjà un peu déçu, disons.
Oui. Il y a aussi la Révolution française, tu le disais, on en parlait en introduction. Il a été fasciné aussi par...
En fait, il adorait l'histoire et de l'Algérie et de la France. Pour l'histoire de l'Algérie, il disait, tant que les Algériens n'auront pas lu l'histoire d'Ibn Khaldoun, qui est un philosophe du XIVe siècle et qui avait fait une grande histoire des Berbères.
C'est le père de la sociologie même.
Ouais.
La sociologie moderne.
Ouais, exactement. Bravo. Et donc, il disait, tant qu'on n'aura pas lu Ibn Khaldoun, on ne saura pas qui on est. Voilà. Et donc, pour en revenir à la France, oui, il était fasciné par la Révolution française. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il est mort en... Enfin, drôle, entre guillemets. Il est mort en 1989, quoi. Juste.
200 ans après.
200 ans après, quoi. Il a écrit une pièce sur Robespierre aussi, je pense. Il était fasciné par Robespierre. Voilà, un peu comme Mélenchon, quoi. L'histoire de son pays, l'Algérie et la Kabylie, il savait que ça serait, il faudrait du temps. Mais il y croyait, mais il savait qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps. Et on en est encore là, quoi.
Une autre de ses engagements, de ses thèmes phares, des choses qui lui tenaient particulièrement à cœur, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est la question de la lutte des femmes.
Oui, ça a fait partie justement de ses engagements, de ses passions même, je dirais. Il trouvait vraiment que les femmes, en Algérie et tout ça, et même en Kabylie, c'était pas ça, quoi. Il y avait comme une régression, et même depuis la Révolution. Et d'ailleurs, il y a un message pour la fête des femmes du 8 mars en 1989. Il a envoyé un message aux femmes, en fait, je pense. On va peut-être le lire.
Oui, Amandine va nous le lire. Ce discours que Kateb Yassine a écrit en message à toutes les femmes.
Aux femmes, aux jeunes filles de l'Algérie nouvelle, à toutes les fleurs vivantes de notre pays. Après les journées et les nuits d'octobre, alors qu'on pose les fondations du grand Maghreb de nos ancêtres, un spectre hante nos débats. C'est l'image d'une femme appelée Kaïna, par les envahisseurs qui voyaient en elle une prophétesse. C'est le sens exact du mot Kaïna. Cette femme, morte au combat dans une guerre de 2000 ans qui fonde notre histoire, avait le don de la parole. C'est pourquoi les Arabes l'appelaient prophétesse. Et voici son message. Ils s'étonnent de vous voir dirigés par une femme. C'est qu'ils sont des marchands d'esclaves. Ils voilent leurs femmes pour mieux les vendre. Pour eux, la plus belle fille n'est qu'une marchandise. Il ne faut surtout pas qu'on la voie de trop près. Il l'enveloppe, la dissimule comme un trésor volé. Il ne faut surtout pas qu'elle parle, qu'on l'écoute. Une femme libre les scandalise. Pour eux, je suis le diable. La prophétesse avait un nom. Elle s'appelait Dia. Quand on pense qu'une femme dirigea ce pays immense dont l'Algérie était le centre, et quand on pense à la condition actuelle de la femme algérienne, on mesure le recul. À plus d'un millénaire de distance, on peut s'interroger. Qu'est devenue la Kaïna ? Elle n'est plus à la tête de l'État, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, on la retrouve au Pakistan en la personne de Benazir Bhutto. Comme par hasard, elle a été élue présidente par une majorité de musulmans dans la plus grande république islamique du monde. Alors qu'en Algérie, c'est au nom de l'islam qu'on opprime les femmes. Cela n'empêche pas les Algériennes de s'imposer par leur lutte. Notre Kaïna d'aujourd'hui n'est pas encore à la tête de l'État, mais elle n'est pas seulement au centre du foyer. Elle brille, même voilée, comme une étoile secrète. Il suffit pour chaque Algérien de penser à sa mère, à ses souffrances, à son abnégation pour se sentir coupable. Et le même Algérien qui adore sa mère n'hésite pas à brimer sa sœur et sa femme au nom d'une fausse virilité qui stérilise le pays. Honneur aux femmes, à leur beauté, à leur courage, à leur travail et à leur juste cause.
الويث بالسنين همشار الهي حنين وليوث لغزاق الرومة العلام نحرز سذي سبين في جبت ثداوين يثغن فالثي طاهت وعومة يفسخي طجن ثمانين يركم تثو ذرين فلست يزل زوغ الرومة يفسخي طجن ثمانين يركم تثو ذرين فلست يزل زوغ الرومة
Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes. Les premiers principes doivent être hors de discussion. J'accepte Euripide et Sophocle, mais je n'accepte pas Eschyle. Ne faites pas la preuve de manque des convenances les plus élémentaires et de mauvais goût envers le Créateur. Repoussez l'incrédulité, vous me ferez plaisir. Il n'existe pas deux genres de poésie, il n'en est qu'une. Il existe une convention peu tacite entre l'auteur et le lecteur, par laquelle le premier s'intitule « malade » et accepte le second comme « garde-malade ». C'est le poète qui console l'humanité. Les rôles sont intervertis arbitrairement. Je ne veux pas être flétri de la qualification de poseur. Je ne laisserai pas des mémoires. La poésie n'est pas la tempête, pas plus que le cyclone. C'est un fleuve majestueux et fertile. Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à effacer une tache de sang intellectuel.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, Néjon ?
Ben c'est Lautréamont. C'est Lautréamont. Le comte de Lautréamont, Isidore Ducasse, qui a écrit Les Chants du Mal d'Or, tout ça, et puis des poésies. Et c'était un des poètes, qui a influencé certainement Cataviasine avec Gérard de Nerval et Baudelaire. Et ce qui est étonnant, ce qui est marrant, c'est que, en fait, Artaud, c'était pareil. Il avait des influences comme ça, il avait des poètes qui l'adoraient et d'autres qui l'adoraient pas, qui le détestaient. Et donc, ces trois poètes-là, Lautréamont, Baudelaire et l'autre, Gérard de Nerval, voilà, ils étaient adorés, et aussi par les surréalistes. N'oublions pas, faut pas oublier aussi que c'est les surréalistes qui ont ressorti le trait amont, en fait, qui les premiers l'ont rendu, comment dire, pas populaire, mais enfin, voilà, à la disposition. C'est devenu un écrivain, voilà, maudit, il fait partie des maudits, comme Gérard de Nerval, comme les mecs qu'on retrouve suicidés ou bien morts au pied de leur lit. Et donc, Kateb Yacine, il a subi fortement l'influence de ces écritures-là et de ces pensées, je pense. Et c'est là, il faut pas oublier que Kateb disait, quand on lui demandait « qu'est-ce que vous faites ?», il répondait « je suis poète ». C'est tout. C'est tout. Pour lui, il n'y avait pas romancier, machin truc, il brassait tout. Et ça se voit d'ailleurs dans ses volumes où il mélange théâtre, récit, tout ça, pensée politique et tout ça. Je sais plus où j'en suis.
Du coup, ouais, on parlait de ses influences littéraires, et puis si on peut rentrer un peu plus profondément dans l'œuvre, le thème quand même phare, le thème majeur, c'est l'indépendance, c'est la projection, la guerre révolutionnaire pour l'Algérie libre, pour l'Algérie.
Mais en fait, oui. Mais cette guerre, elle a duré jusqu'à la fin de sa vie pour lui. Elle a, bien sûr, il y a eu la guerre pour l'indépendance, hein, qui a commencé en 54. Et lui, en 54, je sais pas, lorsqu'il est né, il est né en 1929, donc il y a qu'à voir, il avait, je sais pas, 25 ans peut-être, je suis pas sûr. Et, mais ça, donc il a lutté pour l'indépendance. Mais après l'indépendance, lui, il croyait vraiment que ça irait mieux, quoi. En fait, qu'on irait quand même, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, il parle de la révolution et il dit la révolution, en fait, c'est jamais fini. Une fois qu'on l'a fait, on n'atteint jamais nos objectifs. Tous les objectifs qu'on voulait atteindre avec cette révolution, on ne les atteint pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la recommencer. Et donc, quand on a fait une révolution, eh bien, il faut se préparer à faire la seconde. C'était un peu son truc. Et là, il se préparait, après 62, toute la période de 1962, qui a été l'indépendance de l'Algérie, jusqu'en 89, 1989, où il est mort, tout ça, ça a été un travail politique, sur la pensée, sur soi-même aussi, quoi faire, où aller, tout ça, puis toujours avec ses obsessions sur la langue, sur les femmes, tout ça. En fait, c'est ce qu'il voulait, lui. Il voulait qu'on parle de ça dans la cité. En fait, voilà ce qu'il voulait. Il voulait qu'on parle de ça, de la langue, des femmes et tout ça, qu'on en parle dans la cité. Mais c'était loin de là, quoi. Faut pas oublier qu'il a été censuré, exclu. Il a passé des années en France. Après, de temps en temps, il essayait de retourner en Algérie. Il y a une période où il est retourné en Algérie et où il a monté une pièce. Alors là, c'était une belle période pour lui. Il a, avec des comédiens, entre guillemets, amateurs, mais qu'il avait choisi, il a monté, il a écrit une pièce à partir des acteurs qui s'appelait Mohamed Pontavalise. Et ça a été un gros, gros succès. Il n'avait jamais connu de succès comme ça. Et ça a été un succès et en Algérie et en France. Il est venu jouer à Paris et même, je pense, en tournée en France. Et ça marchait vraiment terrible sur le public algérien, sur les jeunes Algériens de France. C'était vraiment un gros truc. Et puis après, boum, censuré et retour à Paris et repart avec son bâton pour la révolution, pour les femmes et tout ça, et sur l'écriture. Voilà, en gros, pour l'Algérie. Il y croyait, il a raison, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tous les jeunes Algériens, les jeunes Berbères et tout ça, il faudrait qu'ils lisent Kateb Yacine, vraiment.
Et tous les gens de théâtre.
Le théâtre, il devrait être monté, mais personne n'ose le monter. Personne n'ose le monter, non pas parce que c'est non pas politiquement, je pense qu'il y a plein de gens politiquement et ils s'y risqueraient, mais c'est sur la forme, c'est vrai, c'est casse-gueule, c'est un grand auteur, mais moi je pense que là il a une traversée du désert, mais ça va revenir.
Je rigole parce que moi j'ai vraiment envie de monter Kata Biassine, ça fait partie de mes projets futurs.
J'espère que tu vas le monter, super.
Nejma, pour revenir à Nejma, c'est l'étoile, c'est la femme, c'est son amour, mais c'est aussi l'Algérie.
Oui, enfin, Nejma, oui, en effet, tu as raison, en arabe, ça veut dire étoile. Et tiens, il y a justement la quatrième de couverture de Nejma, et voilà ce qu'il dit, lui. Nejma, c'est un amour d'enfance, c'est la femme éternelle, c'est l'Algérie. Nejma, c'est l'obsession du passé, la quête de l'inaccessible, la résurrection d'un peuple. Nejma, c'est la femme patrie. Voilà, c'est tout ça, quoi. Et donc, c'est son œuvre, en fait.
Et ça a vraiment traversé ses pièces de théâtre, ses écritures. En fait, on retrouve les personnages principaux qui sont dans Nejma, donc l'Agdar, Mohamed, Marguerite, Nejma, on retrouve dans son théâtre.
C'est marrant que tu dises ça. C'est vrai, c'est juste. Et ça fait penser en même temps à... Ça fait penser à Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est la même chose. Tu lis ses bouquins, puis d'un seul coup, tu retrouves l'Olvestein, ou tu retrouves des personnages de Marguerite Duras que tu as vu dans un certain roman. D'un seul coup, paf, tu retrouves dans un autre roman. Tu retrouves ces personnages, mais en même temps, c'est pas les mêmes. Et donc, ça fait penser à Marguerite. Il en a bavé autant que Marguerite, quoi. C'est sûr. Ces écrivains, ils en bavent, quoi. C'est fait pour ça, quoi. Il y a les écrivains qui en bavent, mais qui sont super talentueux, quoi. Qui vont rester, qui traversent le temps. Lui, il va traverser le temps. Un jour, tu vas avoir, là, on ne le montre pas, mais un jour, boum, d'un seul coup, tu vas avoir 4 pièces de Kata Biassine qui vont être montées d'un seul coup.
Tu me parlais hier de Tchekhov. Tu me disais, pendant des années, Tchekhov, c'était pas monté.
Oui, parce que... Oui.
Un peu le même genre, quoi.
C'est-à-dire
c'est que... des auteurs oubliés.
C'est-à-dire que les grandes œuvres, les gens qui ont du style... Je crois que c'est Proust qui disait qu'est-ce que c'est qu'avoir du style, c'est quand on prend un livre et qu'on a l'impression de lire une langue étrangère. Kata Biassine, c'est exactement ça. Moi, la première fois que je l'ai lu, la première fois que j'ai lu, c'est vers 1960, je n'arrivais pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et 2 ans, 3 ans, 4 ans après, je lis, ça me paraissait déjà plus clair. Et là, dernièrement, je l'ai relu. Et alors, tu comprends tout. Tu dis, je me suis dit, mais comment que ça se fait? Mais ça se fait, c'est comme ça. Tchekhov, en effet, comme je te disais, pendant un siècle, tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il raconte rien, il se passe rien dans Tchekhov. Il y a du brouillard, des brumes, qu'est-ce que c'est? Les gens, ils se parlent, bonjour, ça va, tu veux un peu de vodka? Et on ne le voyait pas. En fait, toute la tragédie qui se passait entre les gens, mais il a fallu un siècle pour arriver. Et puis aujourd'hui, le jeune comédien qui lit du Tchekhov dans un cours d'art dramatique, il comprend tout de suite. Voilà, toi.
On va revenir un peu sur la question de la déception de Kata Biassine par rapport à, en gros, comment ça a tourné les événements, comment la révolution qu'il a attendue, qu'il a souhaité, qu'il a faite. À tourner en fait dans une Algérie qui le censure, une Algérie qui le rejette. Et notamment, tu m'avais lu hier des extraits qu'on pourrait relire sur la question de la religion.
Ah oui, mais moi, c'est son grand combat. Hein. Mais en même temps, un combat pour justement faire avancer les choses sur le plan national, mais aussi sur le plan universel, quoi. Parce que ce qu'il dit sur les Algériens, ce qu'il dit sur les religions, sur les religions, je dis bien, parce que les trois, catholiques, musulmanes et juives, je veux dire, ça, c'est la terreur, quoi. C'est la merde, faut le dire. Voilà. Donc lui, il dit ça, il dit, il parle de, parce que bon, il y a une journaliste qui lui dit, mais il faut aussi admettre que le peuple algérien a connu avant l'islam des religions qui étaient là. Et c'est vrai, il y en a eu 12 au moins avant. Et lui, il dit, mais ces religions ont toujours joué un rôle néfaste. Il faut s'y opposer avec la dernière énergie. On les voit maintenant à l'œuvre. On les voit en Israël, en Palestine, on les voit partout. Ces trois religions monothéistes font le malheur de l'humanité. Ce sont des facteurs d'aliénation profonde. Voyez le Liban, ça se passe devant nous. Regardez le rôle des chrétiens, des musulmans et des juifs. Il n'y a pas besoin de dessin. Ces religions sont profondément néfastes et le malheur de nos peuples vient de là. Le malheur de l'Algérie a commencé là. Et après, donc il parle de l'arabisation, c'est-à-dire que sur l'alphabet, mais enfin, il dit, c'est dur de lutter contre une telle couche d'aliénation. Pendant ces 13 siècles, on a arabisé le pays, mais en même temps, on a écrasé le Tamazir, forcément. Ça va ensemble. L'arabisation ne peut jamais être autre chose que l'écrasement du Tamazir. L'arabisation, c'est imposer à un peuple une langue qui n'est pas la sienne, et donc combattre la sienne, la tuer. Comme les Français, quand ils interdisaient aux écoliers algériens de parler arabe ou tamazir parce qu'ils voulaient faire l'Algérie française. Voilà. En gros, c'est ce qu'il dit sur
sur la religion.
Sur la religion.
Sur l'aliénation en général. Et pour ceux qui ont reconnu, j'ai passé deux musiques de Lounès Matoub, un grand poète et chanteur kabyle qui a été assassiné par les intégristes pendant les années noires de l'Algérie, donc de 91 à 2001. Voilà, Lounès Matoub, Kateb Yassine, des poètes en résistance. Avant de passer à la troisième partie de l'émission, où j'aimerais te poser plus de questions sur un montage, parce qu'on a oublié de préciser que tu as travaillé, tu as monté une pièce à partir de montage de Kateb Yassine, on va y revenir. On va écouter une petite chanson du fils de Kateb Yassine, qui s'appelle Amazir Kateb, et qui est chanteur et musicien dans le groupe Gnawa.
Dans un salon de coiffure pour dames, pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. J'aimerais être un parfum juste pour me faire sentir, et sur votre corps m'épanouir comme une goutte en pure de sang. Dans un salon de coiffure pour dames, pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. Ah, ce que je voudrais, c'est être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames, pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil.
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle et nous sommes dans une émission spéciale sur Kateb Yacine. On vient d'écouter Gnawa Diffusion. Et Néjon, toi, en fait, tu as monté un spectacle à partir de plusieurs textes de Kateb Yacine. C'était en quelle année ? Il y a combien de temps ?
C'était en... J'ai regardé hier. C'est vers 1995, en fait. Et c'était un peu ce qu'on appelait, si je me souviens bien, les années noires. En fait, où il y avait quand même un peu, comme la guerre civile, quand même, en Algérie. Et donc, Kateb Yacine était mort déjà. Et je me suis dit, en fait, il y a une voix qui manque, quand même. C'est la voix de Kateb Yacine. Et qu'est-ce qu'il penserait de ça et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire un montage. Je vais faire une pièce. Enfin, je vais réaliser quelque chose de théâtral. Et donc, j'ai commencé à chercher. Puis, en fait, j'ai fait ça sur une forme interview. Comme si Kateb Yacine était interviewé par une journaliste. Et donc, j'ai tapé dans tous ses textes. Pas tous, mais enfin, j'ai pris l'homme aux sandales de caoutchouc, le poète comme un boxeur, le polygone étoilé, éclat de mémoire, et puis des poèmes aussi. J'avais... Et ça s'appelait donc forcément, enfin pas forcément, mais j'avais dit dans la gueule du loup, ça me paraissait évident.
Par rapport à l'anecdote dont tu nous parlais tout à l'heure de son papa qui lui avait dit voilà. Plonge-toi dans la gueule du loup si tu veux attaquer et combattre les Français.
Exactement, et l'anecdote, je l'ai retrouvée tout à l'heure, elle est vraiment super, parce que c'est un peu mieux, je vais encore l'avoir, je vais l'avoir perdu. Je suis pas possible. Bon, ça fait rien.
Mais pourquoi t'as voulu travailler sur Yacine, mais
Bah oui.
Ça t'est venu
Ah bah oui, parce que non, par rapport aux événements d'Algérie, tout ça. Et puis j'avais quand même, comme je dis, j'avais déjà lu Nejma, mais je me suis dit, il y a certainement, enfin, il doit y avoir des trucs intéressants dans tous ces interviews. J'ai acheté tous ces bouquins, j'ai lu, j'ai pioché, puis j'ai fait un montage et sous forme d'interview théâtrale. Et on a joué ça à Vénissieux, lors d'une fête d'ailleurs, parce qu'on jouait une pièce qui s'appelait Annaba à l'époque. Donc c'était une actrice de chez nous les parents qui étaient nés à Annaba, et donc elle rêvait sur Annaba. Enfin,
Annaba, c'est une ville au bord de la mer.
Oui, c'est ça. Nous les Français on appelait ça Boone. Et donc je me suis dit ouais je vais faire ça. Et donc il y avait quand on l'a fait donc il y avait beaucoup de public. Le public était il y avait des femmes voilées tout ça. C'était musulmans beaucoup hein, pas tous hein. Et ça il y a eu des frémissements, et quand je dis frémissements,
c'est un faible mot.
Et oui,
ça fait scandale.
Il y a eu des insultes, quoi, aussi,
ah oui
de la part de femmes, hein, aussi, qui ont insulté les acteurs, parce qu'en fait, elles pensaient que l'acteur était Kateb Yacine. et donc, il y a déjà eu ça. Parce que c'est vrai qu'il ressemblait, il avait un côté comme ça.
C'était qui les acteurs ?
Alors, l'acteur qui jouait Kateb, il s'appelait Christian Auger. Oui. Il est mort malheureusement d'un cancer. Comme Kateb. J'ai eu deux actrices. La première qui a fait la création, c'était Claire Truch. Oui. Et la deuxième, c'était Aurélie Bitra. Et donc, c'était Claire Truch qui était à Vénissieux. Et donc, oui, on s'est fait insulter. Et je pense sincèrement que ce montage, aujourd'hui, je ne pourrais pas le jouer. Oui. Je ne pourrais pas le jouer. On se ferait démolir, quoi. Ils peuvent pas écouter ça, quoi. Ils peuvent pas écouter une parole politique, une parole anti-cléricale, enfin anti-religieuse. Ils ne peuvent pas. Mmh. Voilà. Donc, et à ça, leur seul argument, en fait, voilà, c'est de cogner, c'est de tuer, etc. Si Kateb Yacine n'était pas mort d'un cancer, il serait mort d'un coup de couteau. Voilà, ça c'est sûr, c'est radical. Il le savait d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, qu'il était à Grenoble. Ta question prioritaire, c'était...
Du coup, sur Dans la gueule du loup, c'est vrai que tu as pris le parti pris de faire une interview. Et t'en as fait pas mal des interviews dans tes spectacles, des formes interviews, entretiens.
J'ai pas fait que ça.
Non. Hein.
Mais j'ai fait dernièrement, c'est vrai que j'ai fait du Horace Platini.
On est allé voir.
De toute façon, ça c'était pas une erreur de ma part. C'est un spectacle que j'ai vraiment aimé comme ça. J'ai été très content de la réalisation de ce que j'ai fait, ce que les acteurs ont fait, mais ce qu'on sait au théâtre, c'est qu'il y a des choses dont il ne faut pas parler, c'est le sport. Ça, le sport, et surtout le foot. Ça, si tu parles de ça, d'un seul coup, t'as tout le monde contre toi. Qu'est-ce que c'est que ça, ces voyous, ce fric, on n'a rien à foutre d'entendre parler de Platini et tout ça. Alors que ça parlait du théâtre en même temps, quoi. Parce qu'en fait, voilà. Et puis
Nos auditeurs, pour resituer, on t'avait invité en début de saison et tu nous avais présenté le spectacle que tu étais en train de créer dans le cadre de notre cycle sport et théâtre.
Voilà. Ouais.
Tu avais pris l'entretien de Libération où Marguerite Duras parlait avec Michel Platini.
Voilà, c'est ça.
Et donc, du coup, à Radio Canu, au théâtre de la Gamelle, ça nous avait beaucoup fait rire, on avait bien relayé. Ça nous avait plu comme idée.
Parce qu'on peut faire théâtre de tout. Voilà, c'est ça, comme disait Antoine Vitesse, et je pense qu'il avait raison. Il n'y a pas que des pièces de théâtre obligatoirement. Il y a des romans, il y a la Bible, il y a tout. Il y a le Capital de Karl Marx, ce qu'on veut. Ce qui est plus compliqué à faire un spectacle, c'est la poésie. Ça se discuterait, je veux dire, parce que c'est de la poésie, quoi. C'est du texte. Chaque fois que j'ai vu des spectacles poétiques, d'abord, c'était pas des spectacles, c'était un type qui disait, qui dit des poèmes, tu vois, et ça. Non, ce qui, peut-être sur la poésie contemporaine, il y a quand même du théâtre. Les poètes eux-mêmes, qui, comme Marcos, tout ça, enfin, quand il était vivant, et puis il y avait plein de poètes.
Mais même comme Kateb Yassine, qui est un poète, enfin, son écriture est tellement polyforme que de toute façon, on peut dire que c'est de la poésie pure.
Elle existe dans tout ce qu'il a écrit, la poésie, c'est ça. C'est pour ça qu'il disait à chaque fois, moi je suis poète.
Mais ça nous fait une bonne transition pour dire que le théâtre, c'est on peut faire beaucoup de choses. On peut parler de peinture, on peut parler d'amour, on peut parler de relations entre deux grands peintres exilés, une Russe, un Mexicain. Et je laisse la parole à Odile Loria qui revient avec Alma Bernal et puis Guillermo León, qui n'est pas là, de 2 mois de tournée, 2 mois plus, non, combien vous êtes resté au Mexique?
Deux mois et demi
au Mexique, où vous avez tourné votre spectacle Qui est là?
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? De quoi ça parle, Qui est là, et comment ça a été réceptionné par le public au Mexique? Sans transition. Hein.
Oui, Qui est là est l'adaptation au roman de Cher Diego Tambras, Qui est là, d'Elena Poniatowska. Et c'est l'histoire de la première femme de Diego Rivera, un peintre connu au Mexique, et d'ailleurs aussi, avec lequel ils ont vécu 10 ans ensemble à Paris. Donc, cette pièce, on l'a créée l'année dernière au Taller CTA, que c'est l'école et le théâtre qui dirige et a fondé Alma Bernal, qui nous accompagne. Et cette année, on a fait une tournée au Mexique de 2 mois, surtout inter-district fédéral, que c'est déjà pas mal. On a changé de théâtre, on jouait 3 fois par semaine dans différents théâtres de la capitale, et puis aux alentours de la ville de Mexico, Puebla, Toluca, etc.
Et alors, comment ça s'est passé?
Très bien. La réception du public était très, très belle, surtout des femmes, parce que ça parle du deuil amoureux. Et les femmes étaient très touchées, et nous aussi, du coup, on a joué. Maintenant, on est pour la 36e représentation de Kiela.
Ouais.
Voilà. Voilà, voilà.
Ah oui, oui, c'est un beau projet. Mais je crois comprendre en plus que là, vous êtes de passage éclair sur Lyon, parce que demain, vous prenez le vol pour aller sur Madrid.
Maintenant, on est en tournée, donc on a joué à l'INSA. On a passé toute la semaine latino avec eux, dans laquelle il y a eu des conférences, un atelier théâtre qu'Alma a donné hier. Et on a joué Kiela pour les élèves. Et demain, on part à Madrid pour faire un échange avec el Centro de Artesanía Teatral. ¿Cómo se llama el lugar?
Sí, Centro de Artesanías, Artes Escénicas, sí. De Residuo y Teatro.
Avec lesquels el taller 7A et Residuo y Teatro ont des échanges. Voilà. Après, on joue à Limoges, Châteauroux et Paris à la Casa de México.
Waouh, quelle belle tournée! Est-ce que, du coup, vous allez avoir l'occasion de revenir avec Kiela sur Lyon?
Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Mais j'aimerais beaucoup que rapidement, Alma parle de comment elle a fondé son espace de travail, parce que c'est un espace alternatif. Que cuentes rapidement comment fondaste le taller 7A et oui. Comment décidiste de faire de ta casa tu lugar de travail.
Oui, précisément comme le théâtre est poesía y es revolución, pensamos que es un intento por luchar por un espacio para la juventud, para la gente que no tiene dónde expresarse.
Justement, comme le théâtre est poésie et révolution, on s'est demandé comment on pouvait créer un espace pour que les gens puissent s'exprimer et travailler à la capitale.
Uh-huh. Y en este mundo global, es necesario continuar con la utopía, la poesía y la libertad de expresión.
Et dans ce monde globalisé, il faut continuer avec l'idée des utopies et des révolutions. ¿Cuántos años tiene tu escuela, tu foro?
Desde 2005.
Donc depuis 2005, dans le garage de sa maison, elle a fait un théâtre.
Y la compañía Cartafilus Teatro existe desde hace 20 años.
Et la compagnie qu'elle a fondée, qu'on a fondée ensemble, existe depuis 20 ans.
Waouh, bah bon anniversaire.
Et c'est là où on a créé Kiela, parce que c'était très difficile institutionnellement de trouver un lieu de création, son tréprix. Et donc du coup, comme son exemple, il y a plein de gens qui génèrent ses propres lieux de travail. Et donc elle nous a ouvert les portes pour créer... Elle répétait pendant 2 mois l'année dernière qu'elle a chez elle. Voilà.
Estamos muy orgullosos y agradecidos también con las instituciones que apoyan al teatro. Tenemos el apoyo del FONCA, que en México es Fondo Nacional para Cultura y Artes, y apoya trabajos de colaboración México-Francia.
Donc cette tournée, on l'a fait avec l'aide du ministère de la Culture, le Fonds National pour la Culture et les Arts. Et puedes contarnos qué tipo de alumnos tienen, de dónde vienen, cuál es su realidad social, cuál es su realidad cotidiana en la ciudad.
Tu peux nous traduire aussi les questions.
Tu veux bien nous dire quelle est la réalité de tes élèves à l'école du 7A, quel est son milieu social, sa réalité quotidienne dans la ville.
México es una ciudad hiperviolenta. La mayoría de los estudiantes de teatro vienen de familia disfuncional.
Et la plupart des élèves de théâtre de mon école viennent de familles dysfonctionnelles. La ville est très violente.
Una violencia que se mantiene en silencio.
Une violence qui se maintient en silence.
Por muchos años.
Por des années et des années.
Y la gente viene más o menos edades entre 18, 20 años.
Donc mes élèves ont entre 18, 20 ans.
Aunque trabajamos con niños y adultos.
On travaille aussi avec des enfants et des adultes.
Y se vuelve un espacio más de juego, de expresión. Y he sido testigo de cosas que nunca, nunca habían dicho à nadie.
Par exemple, je suis témoin pendant le travail avec eux des choses qu'ils n'avaient jamais parlé à personne. Des abus, des violences.
Sí, golpes.
Des maltraitances, des familles qui sont en prison et vivent con la vergüenza de que sus familias están en prisión. Dans la honte que un de ses parents sont en prison et donc ils vivent avec la honte. Et par exemple, des fois, elle a des élèves 3 ans Et pendant 3 ans, ils disent, ton père, il est où? Ah bah, il vient pas. Mais pourquoi il vient pas? Parce qu'il est en prison, par exemple.
Y el teatro pues ha sido su arma, que en su cuerpo, en el espacio y a través del tiempo y mucho también de escritura.
Oui, donc le théâtre c'est un lien d'expression et beaucoup aussi à travers le corps mais aussi l'écriture.
Tengan esta forma de hacer algo por ellos mismos, ¿no?
Donc, pas tous les élèves de cette école deviendront des artistes dans la pratique, mais c'est un lien social très important. Voilà.
Bah, félicitations pour ce travail. On souhaite une bonne continuation à ton lieu, ton théâtre.
Te deseamos una buena continuación con tu lugar y tu théâtre. Et une bonne continuation à Kéla pour la tournée. Et voilà, ouais. Merci.
Et puis vous venez quand vous voulez au Théâtre de la Gamelle pour parler plus précisément du coup du théâtre et de comment on peut faire du théâtre aussi au Mexique. Parce que je pense que ça mériterait une émission à part entière.
Los esperamos en México.
On vous attend au Mexique avec la poésie, le théâtre.
Oui. Je l'ai le temps de dire un petit mot là-dessus.
Bien sûr.
Je trouve que. J'ai entendu. Ce qui se passait donc au Mexique et dans au théâtre, mais je voudrais dire qu'ici c'est pas rose et que le théâtre c'est plutôt destiné à des gens privilégiés. On voit ça dans on a des écoles nationales supérieures trucs et on voit bien les gens, c'est les blancs. Des blacks, des maghrébins, tout ça, non. Non, et ils se présentent même pas. Je veux dire, ils savent même que c'est pas pour eux. Et donc tout le travail qu'on a à faire nous en France, c'est d'aller les chercher, quoi, et d'aller voir pourquoi ils viennent pas, qu'est-ce qui bloque. Mais on le sait, c'est l'éducation. Mais bon, voilà.
On sait aussi que c'est voilà que le théâtre, ça reste un milieu, comme tu disais, très élitiste, très pour une certaine classe sociale. Et donc, du coup, tout notre combat aussi en tant que militant en plus d'artiste, c'est aussi d'aller à la rencontre de tous pour faire un théâtre.
Mais je pense que c'est une fin de cycle. On est en train de vivre une fin de cycle, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle centre dramatique et tout ça, ça va foutre le camp. Ça va exploser, ça. Là, on le voit bien avec les jeunes acteurs, les jeunes metteurs en scène qui arrivent, ils font leur truc. Ils s'en foutent de diriger des boîtes, de diriger des théâtres et tout ça. Ils veulent faire leur théâtre. Et ça, c'est formidable. Et bientôt, on va avoir que ça. Et puis, tant mieux. Qu'on fasse exploser les temples, il y en a marre.
On va rester sur cette belle parole. Merci, Alma.
Merci
Odile. Et puis merci Néjon et Amandine. À la semaine prochaine tout le monde. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.